Propos sur le bonheur par Alain. Suite.
Lue par Christiane Johanne pour audiocité.net.
Article 51. Regarde au loin. Au mélancolique, je n'ai qu'une chose à dire. Regarde au loin. Presque toujours, le mélancolique est un homme qui lit trop. L'œil humain n'est point fait pour cette distance. C'est aux grands espaces qu'il se repose. Quand vous regardez les étoiles ou l'horizon de la mer, votre œil est tout à fait détendu. Si l'œil est détendu, la tête est libre et la marche est plus assurée. Tout se détend et s'assouplit jusqu'aux viscères. Mais n'essaie point de t'assouplir par volonté. Ta volonté en toi, appliquée en toi, tire tout de travers et finira par t'étrangler. Ne pense pas à toi, regarde au loin. Il est très vrai que mélancolie est maladie. Et le médecin en peut quelquefois deviner la cause et donner le remède. Mais ce remède ramène l'attention dans le corps, et le souci que l'on a de suivre un régime en détruit justement l'effet. C'est pourquoi le médecin, s'il est sage, te renvoie au philosophe. Mais lorsque tu cours au philosophe, que trouves-tu ? Un homme qui lit trop, qui pense en myope, et qui est plus triste que toi. L'État devrait tenir école de sagesse comme de médecine. Et comment ? Par vraie science, qui est contemplation des choses, et poésie grande comme le monde. Car la mécanique de nos yeux, qui se reposent aux larges horizons, nous enseigne une grande vérité. Il faut que la pensée délivre le corps et le rende à l'univers, qui est notre vraie patrie. Il y a une profonde parenté entre notre destinée d'homme et les fonctions de notre corps. L'animal, dès que les choses voisines le laissent en paix, se couche et dort. L'homme pense. Si c'est une pensée d'animal, malheur à lui. Le voilà qui double ses maux et ses besoins. Le voilà qui se travaille de crainte et d'espérance. Ce qui fait que son corps ne cesse point de se tendre, de s'agiter, de se lancer, de se retenir, selon les jeux de l'imagination. Toujours soupçonnant, toujours épiant choses et gens autour de lui. Et s'il veut se délivrer, le voilà dans les livres, univers fermé encore, trop près de ses yeux, trop près de ses passions. La pensée se fait une prison et le corps souffre. Car dire que la pensée se rétrécit et dire que le corps travaille contre lui-même, c'est dire la même chose. L'ambitieux refait mille fois ses discours et l'amoureux mille fois ses prières. Il faut que la pensée voyage et contemple si l'on veut que le corps soit bien. À quoi la science nous conduira, pourvu qu'elle ne soit ni ambitieuse, ni bavarde, ni impatiente, pourvu qu'elle nous détourne des livres et emporte notre regard à distance d'horizon. Il faut donc que ce soit perception et voyage. Un objet, par les rapports vrais que tu y découvres, te conduit à un autre, et à mille autres, et ce tourbillon du fleuve porte ta pensée jusqu'au vent, jusqu'aux nuages et jusqu'aux planètes. Le vrai savoir ne revient jamais à quelque petite chose tout près des yeux, car savoir, c'est comprendre comment la moindre chose est liée au tout. Aucune chose n'a sa raison en elle, et ainsi le mouvement juste nous éloigne de nous-mêmes. Cela n'est pas moins sain pour l'esprit que pour les yeux. Par où ta pensée se reposera dans cet univers qui est son domaine et s'accordera avec la vie de ton corps qui est liée aussi à toute chose. Quand le chrétien disait « Le ciel est ma patrie », il ne croyait pas si bien dire. Regarde au loin. 15 mai 1911. Article 52. Voyage. En ce temps de vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un spectacle à l'autre, évidemment avec le désir de voir beaucoup de choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, rien de mieux, car il vaut mieux avoir plusieurs noms de lieux à citer, cela remplit le temps. Mais si c'est pour eux, et pour réellement voir, je ne les comprends pas bien. Quand on voit les choses en courant, elles se ressemblent beaucoup. Un torrent, c'est toujours un torrent. Ainsi, celui qui parcourt le monde à toute vitesse n'est guère plus riche de souvenirs à la fin qu'au commencement. La vraie richesse des spectacles est dans le détail. Voir, c'est parcourir les détails, s'arrêter un peu à chacun, et de nouveau saisir l'ensemble d'un coup d'œil. Je ne sais si les autres peuvent faire cela vite, et courir à autre chose, et recommencer. pour moi je ne le saurais. Heureux ceux de Rouen qui, chaque jour, peuvent donner un regard à une belle chose et profiter de Saint-Ouen, par exemple, comme d'un tableau que l'on a chez soi. Tandis que si l'on passe dans un musée une seule fois, ou dans un pays à touristes, il est presque inévitable que les souvenirs se brouillent et forment enfin une espèce d'image grise aux lignes brouillées. Pour mon goût, voyager, c'est faire à la fois un mètre ou deux, s'arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s'asseoir un peu à droite ou à gauche, cela change tout, et bien mieux que si je fais 100 kilomètres. Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent. Mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas. Et si je reviens à une chose déjà vue, en vérité, elle me saisit plus que si elle était nouvelle, et réellement elle est nouvelle. Il ne s'agit que de choisir un spectacle varié et riche afin de ne pas s'endormir dans la coutume. Encore faut-il dire qu'à mesure que l'on sait mieux voir, un spectacle quelconque enferme des joies inépuisables. Et puis de partout, on peut voir le ciel étoilé. Voilà un beau précipice. 29 août 1906. Article 53. La danse des poignards. Chacun connaît la force d'âme des stoïciens. Ils raisonnaient sur les passions, haine, jalousie, crainte, désespoir, et ils arrivaient ainsi à les tenir en bride comme un bon cocher tient ses chevaux. Un de leurs raisonnements qui m'a toujours plu et qui m'a été utile plus d'une fois, et celui qu'ils font sur le passé et l'avenir. Nous n'avons, disent-ils, que le présent à supporter. Ni le passé ni l'avenir ne peuvent nous accabler, puisque l'un n'existe plus et que l'autre n'existe pas encore. C'est pourtant vrai. Le passé et l'avenir n'existent que lorsque nous y pensons. Ce sont des opinions, non des faits. Nous nous donnons bien du mal pour fabriquer nos regrets et nos craintes. J'ai vu un équilibriste qui ajustait une quantité de poignards les uns sur les autres. Cela faisait une espèce d'arbre effrayant qu'il tenait en équilibre sur son front. C'est ainsi que nous ajustons et portons nos regrets et nos craintes en imprudents artistes. Au lieu de porter une minute, nous portons une heure. Au lieu de porter une heure, nous portons une journée, 10 journées, des mois, des années. L'un qui a mal à la jambe pense qu'il souffrait hier, qu'il a souffert déjà autrefois, qu'il souffrira demain. Il gémit sur sa vie tout entière. Il est évident qu'ici la sagesse ne peut pas beaucoup, car on ne peut toujours pas supprimer la douleur présente. Mais s'il s'agit d'une douleur morale, qu'en restera-t-il si l'on se guérit de regretter et de prévoir? Cet amoureux maltraité, qui se tortille sur son lit au lieu de dormir, et qui médite des vengeances corses, que resterait-il de son chagrin s'il ne pensait ni au passé ni à l'avenir? Cet ambitieux, mordu au cœur par un échec, où va-t-il chercher sa douleur, sinon dans un passé qu'il ressuscite et dans un avenir qu'il invente? On croit voir le Sisyphe de la légende qui soulève son rocher et renouvelle ainsi son supplice. Je dirais à tous ceux qui se torturent ainsi, pense au présent, pense à ta vie qui se continue de minute en minute. Chaque minute vient après l'autre. Il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis. Mais l'avenir m'effraie, dis-tu. Tu parles de ce que tu ignores. Les événements ne sont jamais ceux que nous attendions. Et quant à ta peine présente, justement parce qu'elle est très vive, tu peux être sûr qu'elle diminuera. Tout change, tout passe. Cette maxime nous a attristés assez souvent. C'est bien le moins qu'elle nous console quelquefois. 17 avril 1908. Article 54. Déclamation. Quelquefois, on rencontre sur la route un spectre humain qui se chauffe au soleil ou qui se traîne vers sa maison. Cette vue de l'extrême décrépitude et de la mort imminente nous inspire une horreur insurmontable au premier moment. Nous fuyons en disant « Pourquoi cette chose humaine n'est-elle pas morte ? Elle aime encore la vie, pourtant. Elle se chauffe au soleil. Elle ne veut pas mourir. » Dur chemin pour nos pensées. La réflexion souvent y trébuche, se blesse, s'irrite, se jette dans un mauvais sentier. C'est bientôt fait. Comme je cherchais la bonne route, après une vue de ce genre, par discours prudents et tâtonnants, je voyais devant moi un ami tout tremblant de mauvaise éloquence, avec des feux d'enfer dans les yeux. Enfin il éclata. « Tout est misère, dit-il. Ceux qui se portent bien craignent la maladie et la mort. Ils y mettent toute leur force. Ils ne perdent rien de leur terreur. Ils la goûtent tout entière. Et voyez ces malades. Ils devraient appeler la mort, mais point du tout. Ils la repoussent. Cette crainte s'ajoute à leurs maux. Vous dites, comment peut-on craindre la mort quand la vie est atroce à ce point-là? Vous voyez pourtant qu'on peut haïr la mort et la souffrance en même temps, et voilà comment nous finirons. Ce qu'il disait lui semblait évident absolument, et ma foi, j'en croirais bien autant si je voulais. Il n'est pas difficile d'être malheureux. Ce qui est difficile, c'est d'être heureux. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'essayer. Au contraire, le proverbe dit que toutes les belles choses sont difficiles. J'ai des raisons aussi de me garder de cette éloquence d'enfer qui me trompe par une fausse lumière d'évidence. Combien de fois me suis-je prouvé à moi-même que j'étais dans un malheur sans remède? Et pourquoi? Pour des yeux de femme, peut-être éblouis ou fatigués ou assombris par un nuage du ciel, tout au plus pour quelque pensée médiocre, pour quelque mouvement de bile, pour quelque calcul de vanité où je supposais d'après des mines et des paroles. Car nous avons tous connu cette étrange folie. Et nous en rions de bon cœur un an après. J'en retiens que la passion nous trompe. Dès que les larmes, les sanglots tout proches, l'estomac, le cœur, le ventre, les gestes violents, la contraction inutile des muscles, se mêlent au raisonnement. Les naïfs y sont pris, à chaque fois. Mais je sais que cette mauvaise lumière s'éteint bientôt. Je veux l'éteindre tout de suite. Cela m'est possible. Il suffit que je ne déclame point. Je connais assez la puissance de ma propre voix sur moi-même. Je veux donc me parler à moi-même tout uniment, et non point en tragédien. Voilà pour le ton. Je sais aussi que la maladie et la mort sont des choses communes et naturelles, et que cette révolte est certainement une pensée fausse et inhumaine, car une pensée vraie et humaine doit toujours, il me semble, être adaptée en quelque façon à la condition humaine et au cours des choses. Et c'est déjà une raison assez forte pour ne pas se jeter en étourdi dans ces plaintes qui nourrissent la colère et que la colère nourrit. Cercle d'enfer. Mais c'est moi qui suis le diable et c'est moi qui tiens la fourche. 29 septembre 1911. Article 55. Jérémiade. Ce que je vous souhaite pour cette année qui recommence, c'est-à-dire pour le temps qu'il faut au soleil pour remonter à son plus haut et redescendre ensuite au plus bas, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas dire et aussi de ne pas penser que tout va de mal en pis. Cette soif de l'or, cette ardeur au plaisir, cet oubli des devoirs, cette insolence de la jeunesse, ces vols et ces crimes inouïs, cette impudence des passions, ces saisons folles, enfin, qui nous apportent presque des soirées tièdes au cœur de l'hiver. Voilà un refrain, vieux comme le monde des hommes. Il signifie seulement ceci, je n'ai plus l'estomac ni la joie de mes 20 ans. Encore si ce n'était qu'une manière de dire ce que l'on éprouve, on supporterait ce discours comme on supporte la tristesse de ceux qui sont malades. Mais les discours ont par eux-mêmes une puissance démesurée. Ils enflent la tristesse, ils la grossissent, ils en recouvrent toutes les choses comme d'un manteau, et ainsi l'effet devient cause, comme on voit qu'un enfant peut bien avoir très peur de son petit camarade qu'il a lui-même déguisé en lion ou en ours. Il est assez clair que si un homme, par naturelle tristesse, orne sa maison comme un catafalque, il n'en sera que plus triste, toute chose lui rappelant aigrement son chagrin.
Même jeu
pour nos idées. Si par humeur nous venons à nous peindre les hommes en noir et les affaires publiques en décomposition, ce barbouillage à son tour nous jette dans le désespoir. Et l'homme le plus intelligent est souvent celui qui se dupe le mieux lui-même, parce que ses déclamations ont une suite et un air de raison. Le pire, c'est que cette maladie se gagne. C'est comme un choléra des esprits. Je connais des gens en présence de qui l'on ne peut pas dire que les fonctionnaires sont dans l'ensemble plus honnêtes et plus diligents qu'autrefois. Ceux qui suivent leur passion ont une éloquence si naturelle, une sincérité si touchante, que la galerie est pour eux. Et celui qui veut être juste joue alors le rôle d'un niais ou d'un mauvais plaisant. Ainsi la jérémiade s'établit comme un dogme et fait partie bientôt de la politesse. Hier, un ouvrier tapissier, afin de soutenir une conversation préliminaire, disait tout naïvement « Les saisons sont perdues, qui croirait que nous sommes en hiver, et c'est comme l'été, on ne sait plus ce que c'est. » Il disait cela après les dures chaleurs de cette année, qu'il a pourtant senties comme les autres. Mais le lieu commun est plus fort que les faits. Et méfiez-vous de vous-même, vous qui riez de mon tapissier, car tous les faits ne sont pas aussi clairs ni aussi présents au souvenir que le bel été de 1911. Ma conclusion est que la joie est sans autorité, parce qu'elle est jeune, et que la tristesse est sur un trône et toujours trop respectée. D'où je tire qu'il faut résister à la tristesse, non pas seulement parce que la joie est bonne, ce qui serait déjà une espèce de raison, mais parce qu'il faut être juste, et que la tristesse, éloquente toujours, impérieuse toujours, ne veut jamais qu'on soit juste. 4 janvier 1912. Article 56. L'éloquence des passions. L'éloquence des passions nous trompe presque toujours. J'entends par là cette fantasmagorie triste ou gaie, brillante ou lugubre, que nous déroule l'imagination selon que notre corps est reposé ou fatigué, excité ou déprimé. Tout naturellement, nous accusons alors les choses et nous semblables, au lieu de deviner et de modifier la cause réelle, souvent petite et sans conséquence. Dans ce temps où les examens commencent à s'élever au-dessus de l'horizon, plus d'un candidat travaille aux lumières, fatigue ses yeux et ressent un mal de tête diffus, petit mot que l'on guérit bien vite par le repos et le sommeil. Mais le naïf candidat n'y pense point. Il constate d'abord qu'il n'apprend pas vite, que les idées restent dans le brouillard, et que la pensée des auteurs reste dans le papier au lieu de venir à lui. Alors il s'attriste sur les difficultés de l'examen et sur ses propres aptitudes. Puis, portant son regard sur le passé et contemplant tous ses souvenirs à travers le même brouillard triste, il s'aperçoit ou croit s'apercevoir qu'il n'a pas fait grand-chose d'utile, que tout est à revoir, que rien ne s'éclaire ni ne s'ordonne. Regardant maintenant vers l'avenir, il pense que le temps est court et que le travail est bien lent. Aussi revient-il à son livre, la tête entre ses deux mains, alors qu'il devrait se coucher et dormir. Le mal lui cache le remède, et c'est justement parce qu'il est fatigué qu'il se jette au travail. Il lui faudrait ici la profonde sagesse des stoïciens, élucidée encore par Descartes et par Spinoza. Toujours défiant devant l'épreuve d'imagination, il devrait par réflexion deviner ici l'éloquence des passions, et refuser d'y croire, ce qui détruirait soudainement le plus clair de son mal. Car un peu de mal de tête et de fatigue des yeux, cela est supportable et ne dure guère. Mais le désespoir est terrible et aggrave de lui-même ses causes. Voilà le piège des passions. Un homme qui est bien en colère se joue à lui-même une tragédie bien frappante, vivement éclairée, où il se représente tous les torts de son ennemi, ses ruses, ses préparations, ses mépris, ses projets pour l'avenir. Tout est interprété selon la colère, et la colère en est augmentée. On dirait un peintre qui peindrait les furies et qui se ferait peur à lui-même. Voilà par quel mécanisme une colère finit souvent en tempête, et pour de faibles causes, grossie seulement par l'orage du cœur et des muscles. Il est pourtant clair que le moyen de calmer toute cette agitation n'est pas du tout de penser en historien et de faire la revue des insultes, des griefs et des revendications, car tout cela est faussement éclairé, comme dans un délire. Ici encore, il faut, par réflexion, deviner l'éloquence des passions et refuser d'y croire. Au lieu de dire « ce faux ami m'a toujours méprisé », dire « dans cette agitation, je vois mal, je juge mal, je ne suis qu'un acteur tragique qui déclame pour lui-même ». Alors vous verrez le théâtre éteindre ses lumières, faute de public. Et les brillants décors ne seront plus que des barbouillages. Sagesse réelle, arme réelle contre la poésie de l'injustice. Hélas, nous sommes conseillés et menés par des moralistes d'occasion qui ne savent que se mettre en délire et donner leur mal à d'autres. 14 mai 1913. Article 57. Du désespoir. Un fripon, disait quelqu'un, ne se tue pas pour si peu. Ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'un honnête homme se croit déshonoré, se donne la mort et est pleuré de ceux-là même dont il se croyait méprisé. Je cherche, au sujet de ce drame qui sera longtemps présent à nos mémoires, ce qui fait que l'homme qui veut être juste et raisonnable semble souvent n'avoir dompté certaines passions que pour être attaqué et vaincu par d'autres. Et aussi par quelle pensée il pourrait combattre le désespoir. Jugez d'une situation, poser un problème difficile, en chercher la solution, ne la point trouver, ne savoir à quoi se résoudre, tourner dans les mêmes pensées comme un cheval au manège, cela seul, direz-vous, est un tourment. Et l'intelligence a des pointes aussi pour nous piquer. Non, point du tout. Il faut justement commencer par ne point tomber dans cette erreur-là. Il y a beaucoup de problèmes où l'on ne voit rien, et l'on s'en console aisément. Un conseil, un liquidateur, un juge peuvent très bien décider qu'une affaire est sans espérance, ou même ne rien pouvoir décider sans perdre l'appétit ni le sommeil. Ce qui nous blesse dans des pensées inextricables, ce ne sont pas les pensées inextricables, c'est plutôt une espèce de lutte et de résistance contre cela même, ou si vous voulez, un désir que les choses ne soient pas comme elles sont. Dans tout mouvement de passion, je crois qu'il y a une résistance contre l'irréparable. Par exemple, si quelqu'un souffre d'aimer une femme sotte ou vaniteuse ou froide, c'est qu'il s'obstine à vouloir qu'elle ne soit pas comme elle est. De même, lorsqu'une ruine est inévitable et qu'on le sait bien, la passion veut espérer et ordonne en quelque sorte à la pensée de refaire encore une fois la même route afin de trouver quelques bifurcations qui conduisent autre part. Mais le chemin est fait. L'on en est justement où l'on en est, et dans les chemins du temps, on ne peut ni retourner en arrière ni refaire deux fois la même route. Aussi, je tiens qu'un caractère fort est celui qui se dit à lui-même où il en est, quels sont les faits, quel est au juste l'irréparable, et qui part de là vers l'avenir. Mais ce n'est pas facile, et il faut s'y exercer dans les petites choses, sans quoi la passion sera comme le lion en cage qui pendant des heures piétine devant la grille comme s'il espérait toujours quand il est à un bout qu'il n'a pas bien regardé à l'autre. Bref, cette tristesse qui naît de la contemplation du passé ne sert à rien, et est même très nuisible, parce qu'elle nous fait réfléchir vainement et chercher vainement. Spinoza a dit que le repentir est une seconde faute. Mais, dit l'homme triste, s'il a lu Spinoza, je ne puis toujours pas être gai si je suis triste. Cela dépend de mes humeurs, de ma fatigue, de mon âge et du temps qu'il fait. Bon, dites-vous cela à vous-même. Dites-vous sérieusement cela. Renvoyez la tristesse à ses vraies causes. Il me semble que vos lourdes pensées seront chassées par là, comme des nuages par le vent. La terre sera chargée de maux, mais le ciel sera clair. C'est toujours autant de gagner. Vous aurez renvoyé la tristesse dans le corps. Vos pensées en seront comme nettoyées. Ou disons, si vous voulez, que la pensée donne des ailes à la tristesse et en fait un chagrin planant. Tandis que par ma réflexion, si elle vise bien, je casse les ailes, et je n'ai plus qu'un chagrin rampant. Il est toujours devant mes pieds, mais il n'est plus devant mes yeux. Seulement, voilà le diable, nous voulons toujours un chagrin qui vole bien haut. 31 octobre 1911.
Article 58 de la pitié. Il y a une bonté qui assombrit la vie, une bonté qui est tristesse, que l'on appelle communément pitié, et qui est un des fléaux humains. Il faut voir comment une femme sensible parle à un homme amaigri et qui passe pour tuberculeux. Le regard mouillé, le son de la voix, les choses qu'on lui dit, tout condamne clairement ce pauvre homme. Mais il ne s'irrite point, il supporte la pitié d'autrui comme il supporte sa maladie. Ce fut toujours ainsi. Chacun vient lui verser encore un peu de tristesse, chacun vient lui chanter le même refrain « Cela me crève le cœur de vous voir dans un état pareil ». Il y a des gens un peu plus raisonnables et qui retiennent mieux leurs paroles. Ce sont alors des discours toniques. Ayez bon courage, le beau temps vous remettra sur pied. Mais l'air ne va guère avec les paroles, c'est toujours une complainte à faire pleurer. Quand ce ne serait qu'une nuance, le malade la saisira bien. Un regard surpris lui en dira bien plus que toutes les paroles. Comment donc faire? Voici, il faudrait n'être pas triste. Il faudrait espérer. On ne donne aux gens que l'espoir que l'on a. Il faudrait compter sur la nature, voir l'avenir en beau et croire que la vie triomphera. C'est plus facile qu'on ne croit parce que c'est naturel. Tout vivant croit que la vie triomphera. Sans cela, il mourrait tout de suite. Cette force de vie vous fera bientôt oublier le pauvre homme. Eh bien, c'est cette force de vie qu'il faudrait lui donner. Réellement, il faudrait n'avoir point trop pitié de lui. Non pas être dur et insensible,
mais faire voir une amitié joyeuse. Nul n'aime inspirer la pitié, et si un malade voit qu'il n'éteint pas la joie d'un homme bon, le voilà soulevé et réconforté. La confiance est un élixir merveilleux. Nous sommes empoisonnés de religion. Nous sommes habitués à voir des curés qui sont à guetter la faiblesse et la souffrance humaine, afin d'achever les mourants d'un coup de sermon qui fera réfléchir les autres. Je hais cette éloquence de croque-mort. Il faut prêcher sur la vie, non sur la mort, répandre l'espoir, non la crainte, et cultiver en commun la joie, vrai trésor humain. C'est le secret des grands sages, et ce sera la lumière de demain. Les passions sont tristes, la haine est triste, la joie tuera les passions et la haine. Mais commençons par nous dire que la tristesse n'est jamais ni noble, ni belle, ni utile. 5 octobre 1909. Article 59. Les mots d'autrui. Le moraliste, c'est La Rochefoucauld, je crois, qui a écrit « Nous avons toujours assez de force pour supporter les mots d'autrui », a dit assurément quelque chose de vrai. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ce qui est bien plus beau à remarquer, c'est que nous avons toujours assez de force pour supporter nos propres mots. Et il le faut bien. Quand la nécessité nous met la main sur l'épaule, nous sommes bien tenus. Il faudrait donc mourir, ou bien alors on vit comme on peut. Et la plupart des gens s'arrêtent à ce dernier parti. La force de la vie est admirable. Ainsi les inondés, ils s'adaptaient. Ils ne gémissaient point sur la passerelle, ils y mettaient le pied. Ceux qu'on entassait dans les écoles et dans les autres lieux publics y campaient pour le mieux et mangeaient et dormaient de tout leur cœur. Ceux qui ont été à la guerre en racontent autant. Les grandes peines ne sont pas alors parce qu'on est en guerre, mais parce que l'on a froid aux pieds. L'on pense furieusement à faire du feu et l'on est tout à fait content quand l'on se chauffe. On pourrait même dire que plus l'existence est difficile, mieux on supporte les peines et mieux on jouit des plaisirs. Car la prévision n'a pas le temps d'aller jusqu'à des mots simplement possibles. Elle est tenue en bride par la nécessité. Robinson ne commence à regretter sa patrie que lorsqu'il a bâti sa maison. C'est sans doute pour cette raison qu'un riche se plaît à la chasse. Ce sont alors des mots prochains, comme mal aux pieds, ou des plaisirs prochains, comme bien boire et bien manger. Et l'action emporte tout, enchaîne tout. Celui qui met toute son attention sur un acte assez difficile, celui-là est parfaitement heureux. Celui qui pense à son passé ou à son avenir ne peut pas être heureux tout à fait. Tant qu'on porte le poids des choses, il faut être heureux ou périr. Mais dès qu'on porte en inquiétude le poids de soi, tout chemin est rude. Le passé et l'avenir frottent dur sur la route. En somme, il ne faudrait point penser à soi. Le plaisant, c'est que ce sont les autres qui me ramènent à moi par leurs discours sur eux-mêmes. Agir ensemble, c'est toujours bon. Parler ensemble, pour parler, pour geindre, pour récriminer, c'est un des grands fléaux de ce monde. Sans compter que le visage humain est diablement expressif et arrive à éveiller des tristesses que les choses me faisaient oublier. Nous ne sommes égoïstes qu'en société, par le choc des individus, par la réponse de l'un à l'autre, réponse de la bouche, réponse des yeux, réponse du cœur fraternel. Une plainte déchaîne mille plaintes, une peur déchaîne mille peurs. Tout le troupeau court dans chaque mouton. Voilà pourquoi un cœur sensible est toujours misanthrope, un peu. Ce sont des choses auxquelles l'amitié doit toujours penser. On nommerait trop vite égoïste l'homme sensible qui cherche la solitude par précaution contre les messages humains. Il n'est pas d'un cœur sec de supporter difficilement l'inquiétude, la tristesse, la souffrance peinte sur un visage ami. Et l'on doute si ceux qui font volontiers société avec le malheur ont plus d'attention à leurs propres maux ou plus de courage, ou plus d'indifférence. Ce moraliste ne fut que malin. Les mots d'autrui sont lourds à porter. 23 mars 1910. Article 60. Consolation. Le bonheur et le malheur sont impossibles à imaginer. Je ne parle pas des plaisirs proprement dits, ni des douleurs, comme rhumatisme, maux de dents, ou supplice d'inquisition. Cela, on peut s'en faire une idée en évoquant les causes, parce que les causes ont une action certaine. Par exemple, si l'eau bouillante jaillit sur ma main, si je suis renversé par une automobile, si j'ai la main prise dans une porte, Dans tous ces cas-là, j'évalue à peu près ma douleur, ou autant qu'on peut savoir, la douleur d'un autre. Mais dès qu'il s'agit de cette couleur des opinions qui fait le bonheur ou le malheur, on ne peut rien prévoir ni rien imaginer, ni pour les autres ni pour soi. Tout dépend du cours des pensées, et l'on ne pense pas comme on veut. À bien plus forte raison, peut-on être délivré sans savoir pourquoi de pensées qui ne sont nullement agréables. Le théâtre, par exemple, nous occupe et nous détourne avec une violence qui est risible. Si l'on fait attention aux pauvres causes, une toile peinte, un braillard, une femme qui fait semblant de pleurer. Mais ces singeries vous tireront des larmes, de vraies larmes. Vous porterez un moment toutes les peines de tous les hommes par la vertu d'une mauvaise déclamation. L'instant d'après, vous serez à milieu de vous-même et de toutes les peines en plein voyage. Le chagrin et la consolation se posent et s'envolent comme des oiseaux. On en rougirait, on rougirait de dire comme Montesquieu « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé ». Il est pourtant clair que si on lit vraiment, on saura à ce qu'on lit. Un homme qui va à la guillotine dans un fourgon est à plaindre. Pourtant, s'il pensait à autre chose, il ne serait pas plus malheureux dans son fourgon que je ne suis maintenant. S'il compte les tournants ou les chaos, il pense aux tournants et aux chaos. Une affiche vue de loin et qu'il essaierait de lire pourrait bien l'occuper au dernier moment. Qu'en savons-nous et qu'en sait-il ? J'ai eu le récit d'un camarade qui s'est noyé. Il était tombé entre un bateau et le quai et resta sous la coque un bon moment. On le retira inanimé. Il revint donc de la mort, on peut le dire. Voici ses souvenirs. Il se trouva dans l'eau les yeux ouverts, et il voyait devant lui flotter un câble. Il se disait qu'il aurait pu le saisir, mais il n'en avait point l'envie. Cette vue d'eau verte et de câble flottant emplissait sa pensée. Tels furent ses derniers moments, d'après ce qu'il m'a raconté. 26 novembre 1910. Article 61. Le culte des morts. Le culte des morts est une belle coutume, et la fête des morts est placée comme il faut au moment où il devient visible par des signes assez clairs que le soleil nous abandonne. Ces fleurs séchées, ces feuilles jaunes et rouges sur lesquelles on marche, les nuits longues et les jours paresseux qui semblent des soirs, tout cela fait penser à la fatigue, au repos, au sommeil, au passé. La fin d'une année est comme la fin d'une journée et comme la fin d'une vie. Comme l'avenir n'offre alors que nuit et sommeil, naturellement la pensée revient sur ce qui a été fait et devient historienne. Il y a ainsi harmonie entre les coutumes, le temps qu'il fait et le cours de nos pensées. Aussi plus d'un homme en cette saison va évoquer les ombres et leur parler. Mais comment les évoquer? Comment leur plaire? Ulysse leur donnait à manger. Nous leur portons des fleurs, mais toutes les offrandes ne sont que pour tourner nos pensées vers eux et mettre la conversation en train. Il est assez clair que c'est la pensée des morts que l'on veut évoquer et non leur corps. Et il est certain que c'est en nous-mêmes que leur pensée est d'or. Cela n'empêche point que les fleurs, les couronnes et les tombes fleuries aient un sens. Comme nous ne pensons pas comme nous voulons et que le cours de nos pensées dépend principalement de ce que nous voyons, entendons et touchons, il est très raisonnable de se donner certains spectacles afin de se donner en même temps les rêveries qui y sont comme attachées. Voilà en quoi les rites religieux ont une valeur. Mais ils ne sont que moyens, ils ne sont pas fins. Il ne faut donc pas aller faire visite aux morts comme d'autres entendent la messe ou disent leur chapelet. Les morts ne sont pas morts, c'est assez clair, puisque nous vivons. Les morts pensent, parlent et agissent. Ils peuvent conseiller, vouloir, approuver, blâmer. Tout cela est vrai, mais il faut l'entendre. Tout cela est en nous. Tout cela est bien vivant en nous. Alors, direz-vous, nous ne pouvons oublier les morts. Il est inutile de penser à eux. Penser à soi, c'est penser à eux. Oui, mais il est assez ordinaire que l'on ne pense guère à soi, vraiment à soi, sérieusement à soi. Nous sommes trop faibles et trop inconstants à nos propres yeux. Nous sommes trop près de nous. Il n'est pas facile de trouver une bonne perspective de soi qui laisse tout en vraie proportion. Quel est donc l'ami de la justice qui pense continuellement à la justice qu'il veut? Au contraire, nous voyons les morts selon leur vérité, par cette piété qui oublie les petites choses, et leur puissance de conseiller, qui est le plus grand fait humain peut-être, vient de ce qu'ils n'existent plus, car exister, c'est répondre au choc du monde environnant. C'est plus d'une fois par jour et plus d'une fois par heure oublier ce qu'on a juré d'être. Aussi cela est plein de sens de se demander ce que les morts veulent. Et regardez bien, écoutez bien, les morts veulent vivre, ils veulent vivre en vous, ils veulent que votre vie développe richement ce qu'ils ont voulu. Ainsi les tombeaux nous renvoient à la vie. Ainsi notre pensée bondit joyeusement par-dessus le prochain hiver jusqu'au prochain printemps et jusqu'aux premières feuilles. J'ai regardé hier une tige de lilas dont les feuilles allaient tomber, et j'y ai vu des bourgeons. 8 novembre 1907. Article 62. Gribouille. Ceux qui se livrent aux accès de toux avec une espèce de fureur espèrent bien qu'ils vont se soulager d'un petit chatouillement dans la gorge. Par cette belle méthode, ils s'irritent la gorge, ils s'essoufflent, ils s'exténuent. Aussi, dans les hôpitaux et autres maisons de santé, on apprend aux malades à ne point tousser, ce qui se fait d'abord en se retenant de tousser autant qu'on peut. Mieux encore en avalant sa salive jusqu'au moment où l'on va tousser, car l'un de ces mouvements exclut l'autre, et enfin en ne se laissant point indisposer et courroucer par ce petit chatouillement qui se calme de lui-même dès que l'on arrive à le mépriser. Pareillement, il y a des malades qui se grattent et qui se donnent ainsi une espèce de plaisir trouble, mêlé de douleurs, qu'ils payent ensuite par des douleurs plus cuisantes. De même que ceux qui toussent de tout leur cœur, ils arrivent à une espèce de fureur contre eux-mêmes. C'est une méthode de gribouille. L'insomnie offre des drames du même genre où l'on souffre du mal que l'on se fait à soi-même. Car rien n'empêche que l'on reste quelque temps sans dormir, et l'on n'est pas si mal dans un lit. Mais la tête travaille, on se dit que l'on veut dormir, on s'applique à dormir, on y met toute son attention, et si bien que l'on reste éveillé par cette volonté et par cette attention même. Ou bien encore on s'irrite, on compte les heures, on juge absurde de ne pas mieux employer le temps précieux du repos. En même temps on saute et on se retourne comme une carpe sur l'herbe. Méthode de gribouille. Ou bien encore, et aussi bien le jour que la nuit, si l'on a quelque sujet d'être mécontent, on y revient dès que l'on peut. On reprend sa propre histoire comme un roman bien noir que l'on a laissé ouvert sur sa table. On se replonge ainsi dans son chagrin, on s'en régale, on revient sur ce que l'on a craint d'en oublier, on passe en revue tous les maux possibles que l'on peut prévoir, on gratte son mal enfin. Méthode de gribouille. Un amoureux que sa belle a renvoyé ne voudrait pas penser à autre chose. Mais il reprend les bonheurs passés et les perfections de l'infidèle, et ses perfidies, et ses injustices. Il se fouette lui-même de tout son cœur. Il devrait, s'il ne peut penser à quelque autre chose, considérer son malheur autrement, se dire que c'est une petite sotte qui n'est plus déjà de première fraîcheur, imaginer la vie qu'il aurait eue avec cette femme devenue vieille, peser scrupuleusement les joies passées, faire la part de son propre enthousiasme, faire revivre ces minutes discordantes sur lesquelles on passe quand on est heureux, mais qui, dans la tristesse, servent alors de consolation. Finalement, arrêter son attention sur quelques traits physiques, œil, nez, bouche, main, pied, son de voix qui ne plaît pas. Il y en a toujours. J'avoue que c'est là un remède héroïque. Il est plus aisé de se jeter dans un travail compliqué ou dans une action difficile. Mais de toute façon, il faut s'appliquer à se consoler au lieu de se jeter au malheur comme au gouffre. Et ceux qui s'y appliqueront de bonne foi seront bien plus vite consolés qu'ils ne pensent. 31 décembre 1911. Article 63. Sous la pluie. Il y a pourtant assez de maux réels. Cela n'empêche pas que les gens y ajoutent par une sorte d'entraînement de l'imagination. Vous rencontrez tous les jours un homme au moins qui se plaindra du métier qu'il fait, et ses discours vous paraîtront toujours assez forts, car il y a à dire sur tout, et rien n'est parfait. Vous, professeur, vous avez, dites-vous, à instruire de jeunes brutes, qui ne savent rien et qui ne s'intéressent à rien. Vous, ingénieur, vous êtes plongé dans un océan de paperasse. Vous, avocat, vous plaidez devant des juges qui digèrent en somnolant au lieu de vous écouter. Ce que vous dites est sans doute vrai, et je le prends pour tel. Ces choses-là sont toujours assez vraies pour qu'on puisse les dire. Si avec cela vous avez un mauvais estomac ou des chaussures qui prennent l'eau, je vous comprends très bien, Voilà de quoi maudire la vie, les hommes et même Dieu, si vous croyez qu'il existe. Cependant, remarquez une chose, c'est que cela est sans fin, et que tristesse engendre tristesse. Car à vous plaindre ainsi de la destinée, vous augmentez vos maux, vous vous enlevez d'avance tout espoir de rire, et votre estomac lui-même s'en trouve encore plus mal. Si vous aviez un ami, et s'il se plaignait amèrement de toute chose, vous essaieriez sans doute de le calmer et de lui faire voir le monde sous un autre aspect. Pourquoi ne seriez-vous pas un précieux ami pour vous-même? Mais oui, sérieusement, je dis qu'il faut s'aimer un peu et être bon avec soi. Car tout dépend souvent d'une première attitude que l'on prend. Un auteur ancien a dit que tout événement a deux anses et qu'il n'est pas sage de choisir pour le porter celle qui blesse la main. Le commun langage a toujours nommé philosophe ceux qui choisissent en toute occasion le meilleur discours et le plus tonique, c'est viser au centre. Il s'agit donc de plaider pour soi, non contre soi. Nous sommes tous si bons plaideurs et si entraînants que nous saurons bien trouver des raisons d'être contents si nous prenons ce chemin-là. J'ai souvent observé que c'est par inadvertance, et un peu aussi par politesse, que les hommes se plaignent de leur métier. Si on les incline à parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils inventent, non de ce qu'ils subissent, les voilà poètes, et joyeux poètes. Voici une petite pluie, vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie, c'est assez. À quoi bon dire encore cette sale pluie? Cela ne leur fait rien du tout, aux gouttes d'eau, ni aux nuages, ni au vent. Pourquoi ne dites-vous pas aussi bien « Oh, la bonne petite pluie !» Je vous entends, cela ne fera rien du tout aux gouttes d'eau, c'est vrai. Mais cela vous sera bon à vous. Tout votre corps se secouera et véritablement s'échauffera, car tel est l'effet du plus petit mouvement de joie. Et vous voilà comme il faut être pour recevoir la pluie, sans prendre un rhume. Et prenez aussi les hommes comme la pluie. Cela n'est pas facile, dites-vous, mais si, c'est bien plus facile que pour la pluie, car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait beaucoup aux hommes. Et simplement par imitation, il les rend déjà moins tristes et moins ennuyeux. Sans compter que vous leur trouverez aisément des excuses, si vous regardez en vous. Marc Aurèle disait tous les matins « Je vais rencontrer aujourd'hui un vaniteux, un menteur, un injuste, un ennuyeux bavard. Ils sont ainsi à cause de leur ignorance. » 4 novembre 1907. Article 64. Effervescence. Il en est des guerres comme des passions. Un accès de colère n'est jamais explicable par les causes qu'on en donne pour le justifier, comme des intérêts contraires, des rivalités, des rancunes. Des circonstances favorables peuvent toujours arrêter la tragédie. Souvent les discussions, les rixes, les meurtres résultent d'une rencontre fortuite. Supposons que deux hommes d'un même cercle, entre lesquels une altercation semble inévitable, soit porté par de grands intérêts, et pour longtemps, dans deux villes assez éloignées. Ce fait si simple établit la paix, ce que les raisonnements n'auraient pu faire. Toute passion est fille d'occasion. Si deux personnes se voient tous les jours comme un locataire et son concierge, alors les premiers effets deviennent causes à leur tour, et les mouvements d'impatience et de colère sont des motifs d'en éprouver de plus vifs. Ce qui fait qu'il y a souvent alors une disproportion ridicule entre les premières causes et l'effet final. Quand un petit enfant pleure ou crie, il se produit un phénomène purement physique que lui-même ne soupçonne pas, mais auquel les parents et les maîtres doivent faire attention. Ses cris lui font mal à lui-même et l'irritent encore plus. Les menaces, les éclats de voix grossissent encore l'avalanche, c'est la colère même qui entretient la colère. Aussi faut-il alors agir physiquement, par simple massage, ou par changement de perception. L'amour maternel fait voir dans ces cas-là sa science presque infaillible, lorsqu'il promène, câline ou berce le poupon. On guérit une crampe par le massage. Or, une colère d'un poupon et de n'importe qui, c'est toujours un état de contracture des muscles qu'il faut soigner par gymnastique et musique, comme disaient les anciens. Mais dans l'accès de colère, les meilleurs arguments sont tout à fait inutiles et souvent nuisibles, parce qu'ils rappellent à l'imagination tout ce qui peut exciter la colère. Ces remarques aident à comprendre comment la guerre est toujours à craindre et peut toujours être évitée. toujours à craindre par l'effervescence qui, si elle s'étend, réalisera la guerre, même pour de très faibles raisons. Toujours évitable, quelles que soient les raisons, si l'effervescence ne s'en mêle point. Or, les citoyens doivent considérer ces lois si simples avec attention, car ils se disent avec accablement « Que puis-je, moi pauvre, pour pacifier l'Europe ?» De nouvelles causes de conflits surgissent à chaque instant. Il s'élève des problèmes insolubles autant qu'ils passent de jour. Une solution ici fait une crise ailleurs. On ne dénoue qu'en nouant, comme dans la ficelle embrouillée. Laissons aller la nécessité. Oui, mais la nécessité ne va pas à la guerre, comme mille exemples le font assez voir. Tout s'arrange et se dérange. J'ai vu les côtes de Bretagne fortifiées contre l'Angleterre. On ne s'est pourtant point battu par là, en dépit des mauvais prophètes. Mais le vrai danger, c'est l'effervescence. Et ici, chacun est roi de soi-même et maître des tempêtes pour sa part. Pouvoir immense que la masse des citoyens doit apprendre à exercer. Soyez heureux d'abord, comme dit le sage, car le bonheur n'est pas le fruit de la paix. Le bonheur, c'est la paix même. 3 mai 1913. Fin de Propos sur le bonheur par Alain. Propos 51 à 64.